Alors aujourd'hui, le sujet qui m'incombe, c'est une éthique du travail. Alors j'ai préféré mettre une, ça c'est quand on n'est pas sûr de son coup, on met une éthique du travail plutôt que l'éthique du travail. Comme ça au moins on se dit, si jamais on est à côté de la plaque, on peut se dire non, c'était une éthique du travail. Ceci dit, pour plus sérieusement, pour dire que c'est un sujet très vaste, très complexe et dont je prétends pas épuiser la substance, pas du tout, je vous propose simplement une approche qui me semble assez rare finalement dans nos milieux d'église évangélique. Quand je dis assez rare, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop l'habitude de parler de l'éthique du travail. On parle plus volontiers, par exemple, de la bioéthique, de la théorie du genre. Bref, tout ce qui touche à l'être humain en tant que tel, mais l'éthique du travail, pas trop. On a peu l'habitude, d'ailleurs, on a eu des réactions quand on a choisi ce sujet du travail dans l'église, on a eu des réactions du style moi je suis pas concerné, ou ça m'intéresse pas, et il y a peu de gens qui travaillent vraiment, qui ont fait l'effort de venir aux études. Alors, imaginer qu'ils écoutent les études en ligne ou qu'ils lisent les textes, mais je trouve que c'est intéressant qu'il n'y ait pas un élan d'intérêt. C'est significatif d'une mentalité qui est chez nous, qui s'intéressera beaucoup plus au sujet que j'ai cité que celui du travail. La dernière publication, à ma connaissance, spécifiquement sur l'éthique du travail, il y a eu des livres d'éthique qui ont traité, qui ont un chapitre sur le travail, remonte à 1989. C'est vous dire, hein, ça fait, si je sais encore compter, disons 30 bonnes années, que un livre évangélique sur l'éthique du travail n'est pas sorti. Or, il y aurait matière. Mais je fais peut-être omission d'un livre, bien involontairement, hein, mais en tout cas, c'est le dernier que j'ai vu. Or, il est important que l'Église soit en prise avec le quotidien de ses membres et qu'elle ne se retranche pas dans un monde à part. Hein, à force de vivre en communauté, de peuple de Dieu, on a versé, il me semble, dans un genre de, alors je vais dire le mot qui fâche, hein, de communautarisme, d'isolationnisme par rapport à la vraie vie. Sauf quelques-uns d'entre nous, et depuis le début de cette année, qui ont témoigné, qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Alors je fais le procès de personne, hein, c'est un constat un peu tristounet quand même, mais c'est paisible, hein, il ne s'agit pas de faire encore une fois la guerre à qui que ce soit. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont à leur travail pendant la semaine, qui occupent qui ont une occupation professionnelle. Or, dans ce domaine, les chrétiens ont quelque chose à dire. On cite, enfin, je crois pas qu'on les cite ici. Vous connaissez, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement de Lausanne, qui est un mouvement pour l'évangélisation mondiale. Et paradoxalement, il ne parle pas que de l'évangélisation. Justement, il dit, mais attendez, nous, en tant que chrétiens, on a, alors c'est des congrès, je termine, j'interromps ma phrase, c'est un congrès qui a eu lieu dans les années 70, puis après une répétition à Manille, et ensuite, enfin, au Cap, en Afrique du Sud, en 2010. Donc ça remonte déjà à 10 ans. Enfin, non, 12 ans maintenant. C'est un mouvement qui disait, bon, l'évangélisation c'est bien, mais c'est pas notre seul rapport au monde. On doit aussi faire le bien autour de nous, comme un témoignage de l'amour, du bien que Dieu nous a fait. Et pour répondre aussi à des commandements qu'on trouve dans l'Écriture, dans la bouche de Jésus lui-même. Et puis aussi avoir ce que j'appellerais une voix prophétique, c'est-à-dire faire entendre la cause des plus pauvres, par exemple. C'est le sens du défi Miché, dont vous avez peut-être entendu parler. Et c'est aussi une approche que nous pouvons avoir du monde du travail. Pas que, c'est pas la seule, mais c'en est une. Et c'est pour ça que je dis, dans le domaine du travail, de l'emploi, de la vie professionnelle, les chrétiens ont quelque chose à dire. Je vous propose, dans un premier temps, un passage en revue de quelques éléments éthiques qui m'ont semblé, qu'il m'a semblé utile de citer. J'ai pas voulu faire un pensum, je suis totalement incapable d'ailleurs, un pensum de l'éthique chrétienne en général, parce que là vous allez fuir et vous aurez raison, en une heure, c'est pas possible. Mais quelques éléments, alors j'en ai compté 9, je crois quand même, ou à peine, je sais même pas le nombre, bon, peu importe. Je vais vous les dire à l'enfilade, et puis après on va dans le détail. Ça vous va? Si vous dites non, bah, tant pis. La valeur du travail, la défense du droit des plus faibles, le respect de la hiérarchie, la méfiance de l'appât du gain, l'honnêteté, la solidarité, l'usage de la parole et le souci écologique. Bon, si vous avez compté, je ne sais pas, 8, merci, bravo. La valeur du travail. Résumons un extrait, alors là je me tourne vers mon collègue Mathieu qui a fait ça, qui a parlé de la place du travail dans la vie du chrétien, c'était l'étude numéro 1. Et je vais résumer ici, sinon je vous renvoie à l'excellente étude de Mathieu. Dans la Genèse, on découvre que le travail est quelque chose de bon, comme une vocation que Dieu adresse aux humains. Deux verbes expriment cela, cultiver, non, garder, excellent, cultiver et garder. À ces deux verbes, on peut encore ajouter le verbe dominer, qui implique d'une façon ou d'une autre une forme de travail. Le travail des humains est de garder, faire fructifier la terre, tout comme un jardinier prend soin de son jardin. C'est dans ces deux verbes, cultiver et garder, que sont inscrites en germe toutes les activités humaines. Dieu nous appelle donc à l'activité, à la créativité, pour le bien commun. Nous sommes appelés à exprimer nos talents en respectant les autres et en honorant Dieu. Le travail procure ainsi aux humains, et c'est un extrait du livre de l'Ecclésiaste, de la satisfaction et de la joie. Dans une perspective chrétienne, on peut même dire que notre travail, que par notre travail, nous œuvrons pour Dieu, pour que son nom soit reconnu. Nous mettons en valeur la création qu'il nous a confiée. Cela donne alors un sens à nos activités. L'apôtre Paul exhortera les chrétiens d'Éphèse à, je cite, la Éphésiens 4, 28, ce sera dans les notes, « se donner de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains », enfin de leurs propres mains, hein, que chacun travaille honnêtement de ses propres mains. Il encourage les chrétiens de Thessalonique à mettre, je cite, « mettre un point d'honneur à vivre en paix, à s'occuper de leurs propres affaires et à travailler de leurs mains, comme nous vous en avons donné l'injonction, je cite toujours, « afin que vous vous comportiez convenablement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne ». Donc là, c'est l'apôtre Paul qui fait là l'apologie du travail, tout simplement. Il demande aux Thessaloniciens de faire cela et il critique vertement les picassiettes. Il dit « si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Je veux dire, on dit ça aujourd'hui, on se fait retoquer rapidement quand même. Hein. Mais Paul a dit ça, je veux dire, la place du travail dans la théologie de Paul, elle est là. Elle se dit, tu bosses pour gagner ta vie. Il met en regard l'indiscipline, l'absence de règles, voilà, et le fait de travailler. C'est intéressant aussi. Et puis, il est question d'autonomie financière, hein, puisqu'il est question si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est-à-dire, s'il travaille, il mange en profitant de ce qu'il a gagné. Puis il y a un autre texte qui m'échappe maintenant, où il est question de travailler honnêtement de ses propres mains. Puis vous avez en miroir, en phase avec le picassiette, vous avez le paresseux, je reviens à l'Ancien Testament, le paresseux du livre des Proverbes. Alors là, celui-là, on se fiche de lui. Hein. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Voilà, et le paresseux trouve trop fatigant de ramener la main à sa bouche. Je ne vais pas tous vous les lire, mais il y en a une dizaine de textes du livre des Proverbes qui se moquent du paresseux. Donc le travail, dans notre théologie, dans notre éthique, a une valeur en soi. Ce n'est pas juste pour gagner de l'argent. C'est un lieu où on accomplit une certaine vocation que Dieu nous adresse. Alors, à l'inverse, je citerai juste ce livre-là. J'en ai cité déjà deux autres. Une phrase des Proverbes, 12-27. « Un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller. Mais un homme travailleur possède un trésor. » Et moi, j'avais toujours retenu « le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité ». Cette phrase est dans ma mémoire. Puis là, j'ai choisi la Nouvelle Bible Second pour l'ensemble des citations. Donc, un homme travailleur, une femme travailleuse, pourrions-nous dire aujourd'hui, possède un trésor. Alors, bon, quand tu gagnes le SMIC, je ne sais pas si tu peux dire, tu vas aller voir quelqu'un, tu possèdes un trésor. Tu vois, bon, on sera peut-être envoyé, mais bon. C'est l'idée de la valeur de l'activité en soi. Et je pense que c'est un des premiers points de notre éthique. Vous m'interrompez quand vous voulez. Le deuxième, la défense du droit des plus faibles. La Torah, qui reste centrale dans la révélation de Dieu au première alliance, elle est très claire. Tu n'opprimeras pas, alors je cite un des grands textes de loi sociale de la Torah, donc plutôt le texte de Deutéronome 24, là, on pourrait aussi voir Lévitique 19, puis encore Exode 23 ou 24. Tu n'opprimeras pas le salarié pauvre ou déshérité, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des immigrés qui sont dans tes villes, dans ton pays. Déjà là, en droit du travail actuel, on se rend compte qu'il y a des parallèles à faire. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, bon là, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il invoquerait le Seigneur contre toi et ce serait un péché pour toi. Deutéronome 24, 14 et 15. De nombreuses autres prescriptions du respect des droits des plus faibles, prescriptions en faveur de l'équité dans les échanges commerciaux, par exemple, à l'honnêteté, font de la Torah une lecture fort intéressante en matière de droit social aujourd'hui. Je reviendrai sur la question de l'honnêteté. Les prophètes d'Israël sont connus pour leur franche dénonciation de l'injustice. La Torah avait posé cette règle éthique de la justice du salaire à verser, je reste dans mon sujet, mais les prophètes, eux, ont rappelé à l'ordre le peuple quand ils s'éloignaient de cette norme-là. Alors, certains d'entre eux, d'ailleurs, ont payé de leur vie, hein, c'est rappelé à l'ordre, on le sait. Certains discours de cette voie prophétique se rapprochent de notre sujet, je vous cite Ésaïe 10, « Quel malheur pour ceux qui promulguent des décrets malfaisants, qui écrivent des arrêts oppressifs, refusant aux faibles la justice, dépouillant de leurs droits les pauvres de mon peuple, faisant des veuves leur butin et pillant les orphelins. » Jérémie 22, bon là c'est un texte plus général, j'aurais pu ne pas le citer, mais je le trouvais intéressant de le citer comme en tête des autres. « N'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. N'exploitez pas. » Alors, évidemment, on peut faire l'exégèse de ce mot, mais je ne pense pas qu'on puisse en exclure le fait d'abuser des forces de travail d'une personne sans être juste à l'égard de sa rémunération. Quel malheur pour celui qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner sa paye. Jérémie 22. Tu n'as des yeux et un cœur que pour ton intérêt, pour répandre le sang de l'innocent, pour exercer oppression et brutalité. Toujours Jérémie 22. Je me présenterai à vous pour le jugement, dit Dieu, et ça c'est dans Malachie, pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre ceux qui font de faux serments contre ceux qui oppriment le salarié. Alors on sait, ce n'est pas du tout la même chose, mais il y a cette notion dans les discours des prophètes qui repose sur les commandements de la Torah, du Pentateuque. L'apôtre Jacques fait écho à cette voix prophétique de Malachie, de Jérémie notamment. On connaît tous son invective assez violente contre les riches du chapitre 5. Enfin, ce n'est pas les riches qui sont du chapitre 5, c'est son interpellation. « À vous maintenant, les riches, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille sera pour vous un témoignage, elle dévorera votre chair comme un feu. » Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. « Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. Il crie le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur Sabaoth. » Ça veut dire, c'est un des titres, hein, Adonai Sabaoth, c'est un des titres, on a traduit ça par l'Éternel des armées, hein, des multitudes, le Dieu des multitudes. « Vous avez vécu sur la terre dans le confort et le luxe, vous vous êtes repus au jour de la tuerie, vous avez condamné, vous avez assassiné le juste, il ne vous résiste pas. » quand j'étais lycéen, jadis, j'avais lu, je me souviens avoir lu le Germinal d'Émile Zola. Et quand on lit ça, il y a des points communs. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas m'empêcher d'avoir les scènes de ce roman historique de Zola. Quand je lis « Vous avez frustré les salariés de leur salaire et vous, vous vivez dans l'opulence ». Il est toujours nécessaire de s'interroger, quand on fait œuvre de générosité pour le pauvre, sur les causes de sa pauvreté. On connaît ce dialogue. C'est justement le passage de l'action de solidarité, où on vient répondre aux besoins, à l'action, qu'est-ce que je dois dire, politique, sociale, où on se dit « Mais pourquoi il n'a pas ce qu'il lui faut ? Est-ce qu'il n'y a pas des injustices contre lesquelles nous devons nous élever ?» Et là, on arrive à la notion d'un plaidoyer pour le bien, d'une parole prophétique qui rejoint la béatitude que Jésus a donnée. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Alors, rassasiés, soit dans ce monde, soit dans l'autre. Malheureusement, il y a parfois des moments où on sait que justice ne sera pas rendue. Troisième élément, le respect de la hiérarchie. Alors c'est quelque chose à quoi nous sommes extrêmement sensibles, nous, dans nos milieux évangéliques, et c'est vraiment de ça dont on entend, dont j'entends le plus parler. Un texte en particulier, il peut y en avoir un autre, mais je choisis de citer celui-ci, mais un texte qu'il faut citer avec énormément de prudence. Parce que c'est un texte qui parle des relations entre esclaves et maîtres. Si je cite ce texte comme ça, en disant, ben voilà, les ouvriers, c'est un parallèle qui risque de faire hurler. Parce que l'esclave, lui, il n'avait rien à dire. C'était une possession du maître. L'ouvrier, lui, ou l'ouvrière, n'est pas une possession du maître. Encore que, comme je citais Émile Zola et Germinal et la saga des Rougon-Macquart, c'était un peu une possession quand même, on n'était pas loin de l'esclavagisme. Mais on ne peut pas citer ce texte sans faire une adaptation extrêmement énergique entre l'esclavage et aujourd'hui, et à l'époque, et le statut d'ouvrier, d'employé, de salarié aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut peut-être imaginer au moins qu'il faut avoir lu ce texte. Je pense qu'il faut en faire une application distanciée, justement parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Esclaves, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais comme des esclaves du Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez de bon gré, comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux des humains, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maître, il faut le citer aussi, agissez de même à l'égard de vos esclaves, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et qu'il n'y a pas de partialité chez lui. Là, on sent, par exemple, une petite touche sur ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement moral. Abstenez-vous de menaces. A fortiori, il fallait que les maîtres s'abstiennent de menaces contre leurs esclaves, alors a fortiori, contre des patrons à leurs salariés. Voilà ce que. Donc, oui, il y a un respect de la hiérarchie, et c'est clair. Il ne s'agit pas non plus de respecter les autorités au sens politique. Quand, par exemple, l'apôtre Paul demande à ce qu'on respecte les autorités, le magistrat qui a l'épée, ben oui, c'est pas le patron. C'est autre chose. Il faut quand même faire attention. Le patron, est-ce qu'aujourd'hui, il a l'épée ? Alors, il a peut-être eu l'épée dans certains cas, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un patron, qu'une direction ait l'épée pour me frapper. Ça, c'est le magistrat. Donc, soyez soumis aux autorités, attention. Autrement dit, on n'a pas une vraie injonction salariée, suivez les consignes de votre employeur. Il faut forcément transposer, parce que dans les temps bibliques, et à le lieu où la Bible a été écrite, c'était pas du tout les mêmes circonstances salariales qu'aujourd'hui. Je continue. Alors la quatrième, c'est ça, ou la cinquième, 1, 2, 3, 4, je les ai numérotés différemment, la méfiance de l'appât du gain. Nous avons vu ci-dessus que Jacques, dans le chapitre 5, accuse les riches pour leur avidité qui est aux dépens de leurs salariés. Jésus enseignait déjà qu'on ne peut pas être esclave de Dieu et de l'argent. Hein, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon étant un terme translittéré de l'araméen qui personnification de l'argent. Dès l'Ancienne Alliance, les prophètes avaient déjà pointé du doigt l'avidité de certains puissants aux dépens des pauvres. Ésaïe, notamment. Quel malheur pour ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, c'est-à-dire qu'ils achètent, ils achètent, ils achètent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Il n'y a de place que pour vous seuls dans le pays. Donc là, on voit le riche qui veut posséder encore plus, encore plus. Michée, quel malheur, ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils s'en saisissent. Ils oppriment le citoyen et sa maison. L'homme et son patrimoine, Michée 2. Dans ces enseignements-là, l'avidité pousse à l'injustice. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire du bénéfice en tant qu'entreprise. Si une entreprise ne fait pas de bénéfice, c'est problématique. C'est-à-dire, elle ne peut pas payer ses salariés, elle ne peut pas investir, elle ne peut pas renouveler son matériel, etc. Une entreprise est là pour faire du bénéfice, c'est tout à fait normal. Mais là, je parle de l'appât du gain, c'est-à-dire cette absence de conscience qui fait que tout va être au service de l'appât du gain. Ensuite, d'ailleurs, on arrive à ce sujet-là, l'honnêteté. L'honnêteté, dans les temps les plus reculés, l'honnêteté a été un sujet délicat. La Torah traitait déjà des vols. Vous ne commettrez pas de vol. Simplement, déjà dans les 10 paroles, il y a une de ces paroles. On a ça dans Exode 21, puis aussi dans Lévitique 19, donc dans les codes de... les codes de vie sociale qu'on trouve à plusieurs endroits dans la Torah, dans le Pentateuque. Paul exhorte à son tour les Éphésiens à ce que le voleur ne vole plus, mais plutôt qu'il se donne de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains. Là, je l'avais déjà cité tout à l'heure. Mais au départ, c'est que le voleur ne vole plus. Peut-être qu'il y avait une pratique. Et puis, vous avez, par exemple, une verte condamnation dans les Proverbes. Des fausses balances. Les fausses pesées, le non-respect des règles est déjà pointé du doigt, je cite, « Les poids truqués sont une abomination pour le Seigneur » et, je cite encore, « La balance fausse n'est pas une bonne affaire. » Proverbe 20, Proverbe 15, « Celui qui est avide de gains illicites attire le malheur sur sa maison. » Proverbe 15, oui. Michée reprendra ce thème, chapitre 6. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et un épha trop petit qui attire la fureur? Serais-je sans reproche avec des balances fausses, avec des poids trompeurs dans le sac? Le texte de Proverbe 15, 27 que j'ai cité à l'instant, celui qui est avide d'un gain illicite attire le malheur, se poursuit par une condamnation implicite de la vénalité. Le fait que, si tu me donnes un pot de vin, je vais faire ce que tu veux. Le fait d'être achetable. Celui qui déteste les présents vivra. Alors, le 24 décembre, si on vous offre un cadeau, ne sortez pas ce texte. Hors du contexte, c'est dramatique, ce verset. C'est celui qui se laisse pas acheter dans sa conscience, celui-là vivra. On comprend. Donc autrement dit, si vous voulez me faire un cadeau, ne vous gênez pas, je ne vous lirai pas ce verset. Il faut aussi parler du mensonge, et tout autant décrié que le vol, on est dans le chapitre de l'honnêteté, rejeter le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son collègue, à son prochain. C'est-à-dire, ouais, mais dans le milieu du travail. Bon, alors c'est pas toujours simple, hein, cette notion. Parfois on doit se taire avec vérité. Voir aussi Colossiens 3, donc il y a Éphésiens 4 et Colossiens 3 qui disent à peu près la même chose. La Torah, Pentateuque, disait déjà, alors là je vais citer Lévitique, « Aucun de vous ne mentira à son compatriote, ni ne le trompera. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. » Moi, j'ai été témoin de faux témoignages, si je puis dire. J'ai eu des faux témoignages. Alors, pour le coup, en tant qu'employeur à Accès, je sais qu'il y a eu des témoignages que j'ai dû recevoir qui étaient faux. Je l'ai appris après, ou tout ça. Ça existe aujourd'hui, des faux témoignages. Hein. C'est condamnable et tout, n'empêche que ça existe. Où étais-je? Oui, le livre de Proverbes, le juste déteste les paroles mensongères. Et puis, Proverbe toujours, celui qui dépose avec probité, donc dépose un témoignage, fait un rapport juste, le faux témoin trompe. Bon, c'est un peu une lapalissade, mais ça plante le décor. Sans parler des prophètes, par exemple, de Michée, dont je parlais tout à l'heure, ces riches sont pleins de violence, je cite Michée donc, ses habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Verte condamnation donc de la malhonnêteté sous plusieurs formes. Ensuite, la solidarité. Ben oui, dans le travail, dans la Bible en tout cas, il y a une notion de solidarité. La Torah elle-même intègre la notion de partage à l'activité économique. Je produis et en produisant, je laisse une part à quelqu'un qui ne peut pas produire. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ça me fait penser un peu à la banque alimentaire, quelque part, qui récolte les invendus, qui récolte un certain nombre de choses que les circuits de distribution n'utiliseront pas. La femme, oui ?
Dans ce truc, on voit les deux côtés, le côté qui a donné aux pauvres et d'un côté, le côté qui a donné à Dieu, qui passe en premier, qui doit passer en premier dans la vie de l'homme, on est sur le plan financier, et celui qui ne doit pas être oublié, le pauvre, l'étranger, le...
Oui, c'est vrai, vous avez raison de citer le Seigneur, puisque ce genre de commandement est ponctué par un rappel, « Je suis le Seigneur, votre Dieu ». Donc c'est bien au nom de ce Seigneur-là, oui, c'est bien au nom de ce Dieu que nous allons partager avec le pauvre. Ben, c'est vrai que Dieu est notre Dieu aussi quand nous sommes à notre travail. Il n'est pas laissé à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on doit porter une casquette « Je crois en Dieu » à notre travail, mais il est tout autant notre Dieu. Et il préside à notre attitude au travail. Alors, merci. Je parlais de la femme vertueuse, Proverbe 31. Ce poème alphabétique en hébreu, décrit une femme qui fait preuve d'une activité économique importante, mais aussi, elle ouvre sa main aux pauvres, elle tend la main aux déshérités. Ça fait partie du tableau d'une femme qui travaille, qui produit, mais qui n'oublie pas, dans sa production, un geste de solidarité. Et puis, si Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse à travailler, c'est pour qu'ils aient de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, 28. Donc on a toujours cette idée, je gagne ma vie et j'ai un geste pour ceux qui ne la gagnent pas. Ensuite, j'ai choisi, mais là c'est un choix, peut-être, je ne sais pas si c'est pertinent, vous me le direz, l'usage de la parole. Ça, c'est un peu pour les pauses café. Je crois devoir citer quelques éléments d'une éthique de la parole, tant le sujet est important dans le monde du travail. Le livre des Proverbes vante la manière de parler du juste. La bouche du juste est une source de vie. Vivons ça pour le monde du travail. Hein. La langue du juste est un argent de choix. La bouche du juste produit la sagesse. Le cœur du juste médite pour répondre. Et en miroir, enfin plutôt en opposition, quoi, la bouche des méchants éructe des paroles mauvaises. Ajoutons la recommandation. Alors là, je viens de citer les proverbes. Ajoutons la recommandation de Paul, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Gardons ça en mémoire quand on est... Alors, en société en général, hein, mais pour notre sujet, je pense que c'est une certaine importance. Enfin, le huitième point, le souci écologique. C'est un point d'éthique chrétienne depuis un certain nombre de dizaines d'années maintenant. C'est en 1983 que le Conseil œcuménique des Églises a lancé son programme Justice, Paix et Sauvegarde de la Création. Avant cela, alors j'ai découvert en étudiant, en me préparant, que le pape Paul VI avait abordé ce sujet dès les années 70. Alors, on ne va pas faire long, c'est simplement la sauvegarde de la Création est aujourd'hui un vrai souci en tant que nous voulons honorer le Créateur en respectant son œuvre, sa création. Il y a tout un développement qu'on a aujourd'hui qui est un point d'éthique chrétienne. Voilà les points éthiques. Je vous propose que ce soit une boîte à outils pour ensuite voir ce qu'on va utiliser dans telle ou telle situation du monde du travail. Ou ce qu'on pourra conseiller, si tout le monde ne travaille pas dans cette salle, ce qu'on peut conseiller à des gens de la famille qui travaillent, qui sont confrontés peut-être à des difficultés, on peut leur faire part de notre expérience et aussi de notre réflexion sur ce sujet. Oui, il y a une question.
Est-ce que le terme de la Genèse, le cultiver, le garder, est-ce que ça entre dans la préservation écologique, le sens du mot garder ?
Le mot garder, d'après ce que je sais, mais là je demande de l'aide à mes collègues, donc merci de m'aider. Le mot garder, ça a un sens de actif. C'est pas juste le garder, c'est servir et garder. Et peut-être c'est même deux verbes plus ou moins synonymes. Ça peut vouloir dire exploiter, mais pas spolier. Ça peut vouloir dire faire produire, mais pas épuiser.
Le sens de préservation, garder.
Je ne sais pas si on peut dire que le verbe garder a un sens de préservation. Je ne sais pas s'il y a cette notion dans le texte de la Genèse.
Parce qu'on s'éloigne après un verbe protéger, on s'éloigne peut-être trop du sens du texte initial.
Je suis un peu bloqué là pour te répondre. Il faudrait prendre un lexique sur le verbe chamar, sauf erreur, pour le sens de garder. Donc là, on peut imaginer que ça a ce sens, mais je ne sais pas si. Le rédacteur du livre de la Genèse, Moïse qui en a, croyons-nous, a mis la forme finale, mais est-ce qu'il avait le souci écologique ? Je crois que c'est un souci qui est venu bien plus tard. Mais on peut trouver un ferment, une racine du souci de préserver la création, de sauvegarder la création dans ce verbe garder. C'est fort possible. Oui ?
Tu as dit, je me suis confronté au fait que dans le reste du monde et dans les autres religions, les principes sont tout à fait différents, je pense. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se retrouver, mais peut-être en France, dans notre monde du travail, on va se retrouver en tension et en conflit avec une pensée qui est tout à fait autre que ces principes que tu as énoncés.
Oui, je veux dire, les premiers chrétiens, pour reprendre quelque chose que j'ai dit c'était un autre cercle. Les premiers chrétiens n'avaient pas la partie facile. Ils avaient affaire au culte de l'empereur, à certains endroits des mœurs extrêmement dissolues et très répandues, sans doute d'autres choses qu'on ne saurait même pas citer aujourd'hui, qu'on n'oserait même pas citer aujourd'hui. Donc c'est pas nouveau cette confrontation. Le monde du travail est le monde. Le monde dans lequel s'exerce, comme partout ailleurs, la puissance de Satan, et dans lequel il y a aussi, il peut y avoir toutes les turpitudes et les perversions possibles de l'être humain, elles sont présentes autant dans le monde du travail qu'ailleurs. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas parce que nous on va arriver à la fleur au fusil avec nos beaux principes que tout va s'arranger. On est bien d'accord. Il y a une confrontation, un défi. Après, moi, je veux pas donner des leçons. Je veux dire, c'est une interrogation. Moi, le monde du travail, j'ai affaire à des collègues particulièrement formidables. Je peux pas, assez mal placé pour en parler, à vrai dire. Je l'ai abandonné, le monde du travail, il y a plus de 30 ans, quoi. Donc, j'ai une expérience très modeste. Je vous propose maintenant quelques points. Alors là, j'ai la conscience professionnelle. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est des points d'éthique du travail. Je vous ai proposé la boîte à outils. J'aurais même, si j'avais été intelligent d'ailleurs, j'aurais écrit là. Garder. J'ai complètement oublié. Pardon ?
Garder par rapport à Calvin, ça n'est pas un peu le sens de garder pour la suite, pour les gens qui sont après, qui viendront après nous, garder à valeur du travail, je parle, pour les gens qui viennent après nous, quoi.
Je peux pas répondre, je connais pas suffisamment Calvin pour ça.
Calvin avait fait...
C'est possible, je sais pas.
Théorie dans le sens, pas, mais...
C'est possible. Alors, je vous propose maintenant des points d'éthique du travail qui me semblent importants, que j'ai repérés. J'ai quand même une expérience dans le monde du travail en tant qu'employeur, du coup, plutôt, puisque Accès embauche à peu près 130 salariés, qu'on connaît ce que c'est que... Alors, je ne suis pas responsable directement, mais j'ai affaire quand même à certaines questions. La conscience professionnelle, tout d'abord. Ensuite, la loi du profit. Ensuite, l'égalité homme-femme. Ensuite, le harcèlement moral et la pénibilité. Le syndicalisme et l'activité responsable. Le tout en 23 minutes. La conscience professionnelle. Ce que j'appelle conscience professionnelle, c'est la rigueur dans l'exécution de la fiche de poste, le suivi de la réglementation, l'amour du travail bien fait, comme on dit, l'ardeur au travail, une attention permanente, le respect des horaires, le respect des supérieurs et des subordonnés, un souci relationnel avec les collègues et une présentation de soi adéquate. Est-ce que ça vous va comme définition de la conscience professionnelle ? Ouais. En tant que chrétiens, nous avons à faire preuve de cela. Parce que on est sensible à la valeur du travail. Là, je prends dans la caisse à outils. Valeur du travail. Donc nous, on va mettre de la valeur dans notre travail. Respect du droit des salariés. L'honnêteté. Et le bon usage de la parole. Je le mets là aussi. Hein, conscience professionnelle, c'est quelqu'un qui parle correctement aussi. Qui parle, Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas interroger un fonctionnement. Dénoncer un dysfonctionnement ou une injustice. Je pense aussi, on en parlait pas plus tard que ce matin au niveau d'Accès, on parlait de l'individualisme. Et on se disait, même dans les associations, dans une association d'action sociale comme Accès, on assiste, notamment depuis le confinement, le premier confinement, à une forte montée de l'individualisme. C'est-à-dire, il n'y a plus l'adhésion à l'esprit maison, alors qu'on est dans l'action sociale, hein. Il n'y a plus l'adhésion à l'esprit maison, à une association pour elle-même. Il y a le travail me plaît, je reste, le travail me plaît plus, ou mon chef m'énerve, je m'en vais. Cette idée de se mettre en maladie, par exemple, déjà l'expression me hérisse, enfin, ce que j'ai encore à hérisser, se mettre en maladie, c'est le médecin qui vous met en maladie, c'est pas moi qui me mets en maladie. Hein. Vous voyez la perversité de cette expression que j'entends souvent. On se met en maladie si l'employeur établit une consigne qui nous déplaît. Alors hop, on se met en maladie. Combien de fois je l'ai constaté ? Il n'y a plus de conscience de l'entreprise avec l'individualisme, en l'occurrence de l'association. Plus de conscience des enjeux. Si moi je lâche l'affaire, ben, qu'est-ce qui se passe ? Comment vont vivre mes collègues ? Peut-être qu'eux, ils vont bosser comme des malades parce que moi, j'aurais été énervé par une consigne qui ne m'a pas plu et je me serais mis en maladie. Si une personne chrétienne est en position de cadre, la conscience professionnelle, c'est aussi un effet déterminant, moi je le constate, sur ses équipes, sur les personnes qui lui sont subordonnées. La personne qui est cadre incarne l'esprit maison et cette incarnation va donner une bonne impulsion. Alors, ça ne veut pas dire que c'est magique, hein, il peut y avoir... Mais bon, ce n'est pas toujours simple. C'est facile d'avoir les principes, mais parfois, on a des... C'est compliqué d'être honnête, parfois. Moi, j'ai vécu des moments où, entre deux choix malhonnêtes, il faut choisir le moins malhonnête. Et on n'a pas de choix parfaitement honnête, parce qu'à chaque fois, il y a des réglementations contradictoires, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, et des choses, on n'est pas si on est dans telle case ou dans telle case, ou on est dans aucune case, il faut déterminer dans quelle case on se rapproche le plus, etc. C'est loin d'être simple, hein. Je ne suis pas en train de faire de l'angélisme. Ensuite, donc ça c'est la conscience professionnelle. Je pense qu'en tant que chrétien, on a des choses à vivre là-dessus, de notre éthique biblique. Ensuite, la loi du profit, bon là c'est assez simple, encore que. On entend souvent parler dans les journaux d'actionnaires pour lesquels une entreprise doit absolument faire du bénéfice. On a ça en ce moment avec les EHPAD, hein, le scandale des EHPAD en ce moment. Alors je ne sais pas ce qui est vrai, pas vrai, mais c'est régulièrement qu'on a ce genre de choses. Par exemple, des fortes tensions interviennent entre les instances représentatives du personnel et la direction d'une entreprise qui est soupçonnée de chercher son profit plutôt, ou le profit de ses actionnaires plutôt que de préserver des emplois, par exemple. Alors parfois, il y a des vraies tensions économiques. Il y a parfois des directeurs d'entreprise ou des directrices d'entreprise qui sont aux prises avec un budget qui n'arrive pas à équilibrer. Donc il y a des vraies questions. Mais il peut y avoir aussi des abus dans ce domaine et des gens qui s'enrichissent sur le dos. Enfin, c'est les bons vieux discours marxistes, hein, qui s'enrichissent sur le dos du prolétariat. Mais ça peut être vrai. Ça peut être vrai qu'il y a des patrons aujourd'hui qui abusent du système. Le sujet n'est pas nouveau et la Bible en parle depuis longtemps, on l'a vu tout à l'heure. La Bible dit déjà depuis des siècles que l'appât du gain peut motiver des attitudes absolument pas éthiques, pas respectueuses des gens. Ça existe depuis des siècles et des siècles. Au nom du rendement, alors je donne quelques exemples, on vend des produits coûteux à des gens qui n'en ont pas besoin. On abuse de la crédibilité, de la faiblesse de personnes pour placer des produits financiers ou des assurances, par exemple. On réduit le personnel tant et si bien que le travail ne peut plus être fait correctement. C'est le gros débat dans les EHPAD, mais aussi dans d'autres établissements de santé ou sociaux. Figurez-vous que la durée des entretiens pour la demande d'asile, la durée des entretiens pour que les gens puissent déballer tout ce qu'ils ont vécu, c'est calibré. On est obligé maintenant de restreindre, alors qu'avant, les travailleurs sociaux pouvaient passer le temps qu'il fallait, etc. Peut-être qu'ils ont abusé à un moment donné, mais voilà, là, c'est même là, c'est restreint, il y a le rendement. Alors, ce n'est pas le rendement, en l'occurrence, c'est la réduction des financements. Mais pour les EHPAD, c'est la grosse accusation qui est faite. Hein. Pour une toilette, on a 12 minutes, je crois. Voilà. Donc, il peut y avoir des vraies questions éthiques, du coup, sur la loi du profit. L'appât du gain met sur l'autel du sacrifice les conditions de travail, le respect des clients, les relations avec les partenaires, la sécurité, le respect des règles comptables, etc. Il se distingue, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et c'est quand même vrai aujourd'hui, d'une simple et normale recherche de profit. La loi du profit, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de profit pour être bien. Non, il faut qu'une entreprise fasse du profit pour pouvoir se développer, et renouveler son matériel, payer ses salariés correctement, etc., etc. Et payer ses impôts aussi. Ensuite, l'égalité homme-femme. Bon, vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse, mais dans le domaine professionnel, j'y vois quatre points. Le sexisme sur le lieu de travail est aujourd'hui un fait avéré. Enfin. Alors, ce serait mieux qu'il soit avéré qu'il n'y en a pas, mais voilà. Il se traduit de plusieurs manières. Le travail, alors j'appelle ça le travail gratuit en fin d'année. Vous verrez peut-être, je vous explique dans une minute. Pour les femmes travaillent gratuitement en fin d'année. Le plafond de verre, ce qu'on appelle le plafond de verre, des comportements sexistes et le harcèlement sexuel. Tout ça, c'est sur un fond de sexisme sur le lieu de travail et ailleurs, bien sûr. Le travail gratuit en fin d'année est une manière de chiffrer l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. À poste et compétences égales et ancienneté égale, les femmes touchent moins de salaire que les hommes, en général. Et on imagine, la fin d'année gratuite, c'est que, imaginons que les hommes et les femmes, dès le mois de janvier, touchent le même salaire, ben ça veut dire que les femmes, en novembre et décembre, elles n'en toucheront plus. Elles ont 2 mois de différence avec les hommes, de salaire en moins que les hommes. C'est les chiffres, on dit en général, je crois que c'est le 3 novembre, que ah ben, aujourd'hui, mesdames, travaillez gratuitement jusqu'au 31 décembre. Parce qu'il y a une inégalité salariale, ce n'est pas normal. Le travail gratuit, ensuite le plafond de verre, c'est celui auquel les femmes se cognent quand elles veulent monter dans la hiérarchie. Au bout d'un moment, poum, on leur rappelle à bien des endroits qu'elles sont des femmes. La grande majorité des postes à haute responsabilité aujourd'hui est occupée par des hommes. Ensuite, les comportements sexistes, là je dois vous donner des exemples, mais ça existe toujours. Ça va jusqu'à l'Assemblée nationale, hein, pas que dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Remarques désobligeantes, couper la parole, traiter par le mépris ou le silence les collègues féminines, puis le harcèlement sexuel. Alors, celui-là, on en entend plus parler, heureusement. Enfin, comme j'ai dit, consiste à des regards appuyés, des remarques déplacées, des gestes inappropriés, des propositions indécentes, y compris par des personnes exerçant une autorité et conditionnant peut-être un avantage à une faveur sexuelle. Contre tout ceci, il appartient aux chrétiennes et aux chrétiens que nous sommes de lutter, en particulier à nous les hommes peut-être, de lutter, parce que dans le monde du travail, on nous apprend à aimer notre prochain comme nous-mêmes, on nous apprend le respect de la Bible nous apprend le respect de la personne et la défense des droits des personnes. C'est une injustice contre laquelle nous devons lutter, que les salaires ne soient pas égaux, par exemple, ou qu'une femme ait à souffrir des remarques lourdaudes et obscènes de quelques hommes mal élevés. Donc nous devons nous élever contre ces injustices-là, comme contre les autres. Mais bon, rien n'est simple. On le sait. Le syndicalisme, enfin, ou non, ensuite, j'ai encore un point. Le syndicalisme. Alors là, qu'est-ce que je vais vous raconter? Le syndicalisme, après, a pris une grande importance lors de la période d'industrialisation du 19e siècle. Et je vais revenir à Germinal, à cette condition ouvrière. On comprend qu'il fallait défendre les ouvriers contre les patrons, les chefs d'entreprise qui traitaient les ouvriers comme du bétail. Hein, qui... Alors je vais vous lire. Alors merci à Robert Somerville qui a tout un chapitre sur le syndicalisme qui est fort intéressant. Je vous le recommande. Et je vais vous lire un extrait d'un ouvrage Mémoire sur les manufactures de Lyon. De monsieur ou madame Maillet, vers le milieu du 19e siècle. Pour assurer et maintenir, je cite, la prospérité de nos manufactures, il est nécessaire que l'ouvrier ne s'enrichisse jamais, qu'il n'ait précisément que ce qu'il faut pour bien se nourrir et se bien vêtir, Dans une certaine classe du peuple, trop d'aisance assouplit l'industrie, engendre l'oisiveté et tous les vices qui en dépendent. À mesure que l'ouvrier s'enrichit, il devient difficile sur le choix et le salaire du travail. Personne n'ignore que c'est principalement au bas prix de la main-d'œuvre que les fabriques de Lyon doivent leur étonnante prospérité. Il est donc très important aux fabricants de Lyon de retenir l'ouvrier dans un besoin continuel de travail, de ne jamais oublier que le bas prix de la main-d'œuvre est non seulement avantageux par lui-même, mais qu'il le devient encore en rendant l'ouvrier plus laborieux, plus réglé dans ses mœurs, plus soumis à ses volontés. C'est pour ça que le syndicalisme existe. Et quand on lit ce genre de texte, nous, chrétiens du XXIe siècle, qu'est-ce qu'on a envie de dire ?
C'est de l'exploitation.
Pardon ?
C'est de l'exploitation.
C'est de l'exploitation ?
Bravo à ceux qui ont défendu les droits.
Bravo à ceux qui ont défendu les droits. Et est-ce que... Alors là, je peux... C'est compliqué de faire des parallèles entre la moitié du 19e et aujourd'hui, mais est-ce que le syndicalisme, dans son essence, lorsqu'il s'agit de défendre les droits, et c'est comme ça que les syndicats sont apparus, c'est pour défendre les droits des ouvriers comme ceux qu'on a décrits, est-ce que le syndicalisme sied à un chrétien ? Pour l'instant, je pense qu'on peut dire, mais bien sûr qu'il sied à un chrétien, qu'il appartient même aux chrétiens d'aller défendre les droits. C'est l'appel, c'est l'éthique biblique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des confédérations, la CFTC, hein, Confédération chrétienne, Confédération flûte. Je n'ai pas vérifié, bon, ça m'apprendra.
Des travailleurs chrétiens.
Des travailleurs chrétiens ? Comment tu dis ?
Française des travailleurs chrétiens.
Comment tu dis ? Française, c'est FTC, merci. Ouais, ouais. Confédération française des travailleurs chrétiens. Je pense qu'il y a... Oui ?
On peut dire qu'à Mulhouse, les chefs d'entreprise avaient une autre position que les Lyonnais, parce qu'ils ont fait beaucoup de social.
Oui, mais justement, c'est... Alors, tu dis, on peut dire qu'à Mulhouse, les chefs d'entreprise ont fait ont eu une autre attitude que les Lyonnais, parce qu'ils ont fait beaucoup de social. Certes, mais les ouvriers étaient livrés à leur bonne volonté. Et le jour où cette bonne volonté cesse, c'est fini pour les ouvriers. Ils n'ont plus rien. Donc, une des approches des syndicats et du développement de M. Sommerville, ça a été de dire bravo aux patrons qui ont fait preuve de bonté envers leurs ouvriers. Mais c'est pas normal que les ouvriers soient à la merci de la bonté des employeurs et non pas au bénéfice du droit garanti par l'État. C'est pour ça que le syndicalisme, encore une fois, même dans des endroits où le patronat est bienveillant, méritait d'exister et mérite toujours d'exister. Après, le syndicalisme s'est énormément politisé, a beaucoup évolué au XXe siècle. Il a été très influencé par le marxisme et la lutte des classes. Donc aujourd'hui, on arrive à peut-être devoir prendre des distances en tant que chrétien par rapport au syndicalisme qui n'est plus trop une force de proposition, mais une force d'opposition systématique. On m'entend souvent à la radio, moi parfois j'éteins la radio, j'en ai un peu marre. Dès que quand il y a une déclaration du Premier ministre ou du Président de la République, forcément dès qu'on donne la parole au syndicat, c'est nul, c'est mauvais, c'est pas assez, c'est... etc. etc. On a l'impression que ça leur écorcherait la bouche de dire bah, « Tiens, là, c'était pas mal. C'était bien, là. » Et donc, il y a une politisation très forte qui vient chahuter un petit peu notre soumission aux autorités. Alors, je parle bien des autorités, là. Voilà. Du coup, le syndicalisme est quelque chose de très complexe. À la fois, on va emboîter le pas aux syndicats qui défendent les droits. À la fois, on désolidarise à l'encontre de syndicats qui sont trop politisés d'une manière qui ne nous sied pas forcément. Encore une fois, même si en tant que chrétien on peut être de droite ou de gauche, hein, il n'y a pas de côté obligatoire. Voilà ce que j'avais à dire très brièvement sur le syndicalisme. Et puis en dernier lieu, l'activité responsable, puis après j'ouvre aux questions pour le temps qui nous reste. L'activité responsable, qu'est-ce que c'est qu'une activité responsable aujourd'hui? C'est une activité qui respecte l'écologie et l'être humain, si je résume beaucoup. L'écologie est aujourd'hui un vrai souci. C'est plus qu'un souci des chrétiens ou de quelques personnes. C'est un vrai souci politique, reconnu. Le réchauffement climatique nous le rappelle sans cesse. On parle, par exemple, de circuits courts. D'éviter les transports, c'est la même chose. On parle d'éviter des circuits courts pour éviter du transport. Manger du quinoa qui vient d'Amérique du Sud sous prétexte de manger bio, moi, ça me cause un problème. Parce qu'il a traversé l'Atlantique en polluant pour que moi, je puisse manger bio du quinoa. Bon, c'est... Voilà. Des productions elles-mêmes respectueuses de l'environnement, c'est tout le problème de l'huile de palme, par exemple. Qui provoquait de la déforestation. Il y a plein d'autres sujets encore. Des produits naturels, bio, comme on dit. Des emballages. Moi, j'ai acheté l'autre jour une chemise. Eh bien, même l'emballage était bio. Il disait fièrement, voilà. La chemise était bio. Le gars, peut-être aussi, je ne sais pas. Ensuite, il y a l'éthique sociale. C'est-à-dire, ce que j'achète... ce que je produis, là où je travaille, on va refuser. Alors, dans l'éthique sociale, c'est le refus de l'exploitation des enfants, des salaires sous-payés. Par exemple, si dans une entreprise, on sous-traite dans un pays étranger où on sait très bien que les salaires sont pas les mêmes et même sont sous-payés dans le pays où ils sont, en plus. Voilà. Donc là, on se heurte à notre souci, nous, chrétiens écologiques, et notre souci de solidarité envers les êtres humains, de l'amour du prochain. Moi, si je travaille dans un milieu où je sais que c'est une production. Ça va poser des questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Hein. Si je travaille dans une industrie qui pollue, et qu'est-ce que je fais ? Qui produit de l'armement ? Il y a des tas de questions auxquelles, après, là, moi, je m'arrête. J'ai le souffle court. Il faut prendre un sujet après l'autre, je pense. En tout cas, une activité responsable, ça doit être au moins une question. Est-ce qu'on a la réponse ? Je ne sais pas, mais au moins qu'on se pose la question. Est-ce que là où je travaille, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour moi en tant que chrétien ? Je ne dis pas forcément d'être infirmière ou assistante sociale, hein, mais dans l'industrie, dans le métier que je fais, est-ce que je trouve du sens du point de vue de la création et de l'humanité en général ? Est-ce que je fais un travail qui est responsable de ce point de vue-là ? Mais on n'a pas toujours le loisir de se poser la question. Hein. Il y a des fois, on a un boulot, on est content de l'avoir. Voilà. Donc c'est des questions que je pose, encore une fois, mais j'avoue, j'ai pas forcément les réponses. J'ai fini mes notes. J'ouvre aux questions, si vous avez des remarques, des compléments. C'est compliqué de faire une étude sur ce sujet, parce que j'ai le sentiment de peut-être pas avoir tout abordé, de pas avoir été exhaustif. Heureusement pour vous, peut-être que je n'ai pas... voilà. Des remarques, des questions ? Oui ?
Pour l'écologie, aborder Lydie, le fait de laisser la terre se reposer la septième année, c'était certainement un modèle dont on peut s'inspirer aujourd'hui.
Oui, je...
Le sens de garder...
Tu cites la jachère, hein, tous les 7 ans, je crois, qui est indiquée dans peut-être dans le Lévitique, je crois, ou... soit Exode, soit Lévitique, soit Deutéronome. Et oui, c'est un système qui, je crois, aujourd'hui est pratiqué, où on retrouve un peu ces exploitations douces. Là, il n'y en a pas d'agriculteurs parmi nous, mais il y en a qui sont dans l'église et qui réagiront peut-être dans les groupes de maison.
Ça s'appelle la jachère.
Hein. La jachère, déjà, oui, aujourd'hui. Mais je ne sais pas si c'est pratiqué dans les...
Je crois qu'il y a une rotation des cultures de
ouais.
L'année à l'autre.
Ouais, ouais. Et ça, c'est
pour
la
justement faire reposer.
Mmh. Pour que... bon, on a cette idée du repos du sol. Oui. Ouais.
Il y a certains Ménonites qui le pratiquent encore.
Oui. Il y a certains agriculteurs, tu parles de Ménonites, qui le pratiquent encore, oui. Oui, la jachère, c'est quelque chose qui existe. Mais on a parlé dans le temps d'exploitation, comme on dit, l'agriculture intensive, alors ce serait intéressant, mais bon, là, c'est un vrai sujet, quoi. D'autres remarques ? Oui ?
Juste un témoignage personnel par rapport au syndicalisme. Quand j'étais jeune embauché dans la société dont je tairai le nom puisqu'on est enregistré,
ouais.
J'étais jeune et un peu idéaliste et je me suis dit c'est vraiment très important le syndicalisme. En tant que chrétien, j'ai envie non seulement d'adhérer mais en plus de m'investir là-dedans parce que il faut un lien entre on va dire l'ouvrier et puis le patron, même si ça ne s'appelle pas comme ça dans ma boîte. Et je me suis dit que justement, entre chrétiens, on n'est pas contre l'un ou contre l'autre. On est pour et il faut trouver des solutions. Et donc, j'avais vraiment envie de m'investir là-dedans. Sauf que j'ai très, très rapidement déchanté parce que j'ai compris que c'était, comme tu l'as dit, très politique. Même les syndicats entre eux se font la guerre parce qu'ils veulent, entre guillemets, des parts de marché du syndicalisme, des représentations, etc. Et ensuite, ceux qui s'engagent là-dedans, très souvent... C'est pas tous, j'en ai aussi connu qui le faisaient pas dans cet état d'esprit, mais très souvent ce sont des personnes qui ont un statut tellement protégé qu'elles le font d'abord pour elles-mêmes parce qu'elles ont des avantages énormes et que donc, le discours va être politique pour soi-disant.
Pour faire le job, quoi.
Pour faire le job, mais c'est contre-productif très souvent. C'est juste politique et derrière, et ben, c'est pour rester elles en place, avoir leur pouvoir et leurs ouais. avantages. Donc,
c'est un effet pervers, on peut dire.
C'est un effet pervers. Ouais. Et effectivement, j'ai découvert cet effet pervers et je le déplore aujourd'hui.
Alors oui, tout à fait. C'est bien dommage parce que le principe est bon. Mais tout ce qui est bon et que touche l'être humain, ça peut être abîmé, malheureusement, alors que c'est l'être humain qui l'a inventé. Peut-être qu'il y a aussi une voie moyenne dans ce domaine, c'est de participer aux instances représentatives du personnel qui ne sont pas forcément des syndicats. Il y a des entreprises de plus de 50 salariés, si mes connaissances en droit du travail sont encore bonnes, sont censées avoir une représentation du personnel institutionnel. Et c'est pas forcément via un syndicat. Donc peut-être là, il y a quelque chose de moins politisé qui soit possible, de faire partie des comités d'hygiène et de sécurité, des choses comme ça. Ça peut être aussi une mission qu'on s'accorde, dans laquelle on peut se retrouver en tant que chrétien pour la même raison qu'on a, celle qu'on a à la, qui ferait qu'on aborde adhérer à un syndicat. Mais bon, il y a 36 formules possibles suivant les entreprises. Merci Thomas pour ton témoignage. Bien, merci. On a fini ? On sait tout ? Bon, c'est rien. C'est plutôt ça, il ne faut jamais tout savoir. Pardon ?
C'est tellement mensonger, ces trucs-là. Je me souviens, c'est un peu comme Thomas. Bon, en fait, on était à l'école normale, et puis y a un tract qui a passé, et puis il y a une manif. Et on a lu ça, ma copine et moi, mais on a dit, mais je savais pas que j'étais aussi malheureuse que ça. Parce que c'était que, il y avait que du vent, c'était faux partout.
Mmh. Peut-être que les syndicats tels qu'on les voit à la moitié du 19e siècle ont eu une fonction qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Et c'est bien de connaître l'histoire, je pense, et de voir les bienfaits qu'ont apporté les syndicats face à des abus des entreprises. Mais en même temps, aujourd'hui, il faut peut-être prendre de la distance, comme vous en avez témoigné, sans pour autant abandonner la défense des droits, parce qu'il y a parfois... Enfin, je veux dire... ou alors, peut-être... aller une fois à des séances au tribunal des prud'hommes, hein, c'est intéressant. Moi, j'ai assisté une paire de fois. Bah, on voit que là, les conseillers des prud'hommes, ils ont envie de respecter le droit. C'est pas des syndicats. C'est des gens qui veulent, en général, le bien des salariés et dans le respect du droit. Mais c'est un sujet qui reste épineux, hein. On ne prétend pas l'épuiser. Oui ?
Oui, dans les petites entreprises de plus de 50, à partir de 50 employés, il peut y avoir des délégués du personnel.
Oui.
Et ces délégués ne sont pas obligés d'être forcément syndiqués.
Mm-hmm.
Mais
oui.
Après, t'es aussi, soit tu es du côté du patron, soit tu ne l'es pas. Et c'est délicat aussi d'avoir... ce statut-là, parce que par rapport aux collègues, par rapport au patron, enfin, c'est difficile de se positionner.
Oui, c'est un défi, mais peut-être c'est justement pour ça qu'on a une éthique, c'est pour relever des défis.
Ouais.
On va s'arrêter là ?